Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je quitte mon costume de chat pour reprendre ma place d'autrice, mais aussi celle de maman. Pour terminer en beauté cette première saison, toute l'équipe de Ma Langue au Chat et moi-même avions envie de vous faire un petit cadeau à vous, les parents, et à tous ceux qui participent de près ou de loin à l'éducation des enfants. Nous souhaitions vous offrir des outils supplémentaires et des ressources pour vous accompagner à répondre aux vastes questionnements des enfants. Parce que, on peut se le dire entre nous, c'est pas toujours facile, hein. Nos chers enfants nous emmènent parfois dans des contrées plus ou moins confortables que nous n'avions pas tout à fait prévues. Dans Ma Langue au Chat, nous avions à cœur de proposer aux enfants une boîte à outils pour les inviter à se forger leur propre opinion et à réfléchir par eux-mêmes. Mais en tant que parents ou adultes, proches des enfants, quel rôle avons-nous à jouer là-dedans? Comment pouvons-nous les aider à penser une société plus équitable et plus inclusive? Pour nous aider à y voir plus clair et pour vous apporter des ressources nécessaires et supplémentaires, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Raki Kassi, psychologue et docteur en psychologie sociale, et Julien Mock, journaliste et ancien rédacteur en chef de France Info. Bienvenue à tous les deux et merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je vais commencer avec vous, Raki. Oui, j'ai décidé de vous appeler par vos prénoms pour plus de convivialité. J'espère que ça ne vous posera pas de problème. Raki, vous êtes donc psychologue et docteur en psychologie sociale. Vous exercez dans votre cabinet à Chantilly dans l'Oise, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Vous êtes également consultante en diversité et inclusion et formatrice dans le domaine de la lutte contre les discriminations dans le monde professionnel. Vous êtes aussi la mère de deux enfants. Raki, comment faire pour répondre aux questions des enfants lorsque cela vient interférer avec nos propres contradictions et systèmes de valeurs ?
Bonjour tout le monde, déjà merci beaucoup pour l'invitation sur ce podcast. Pour moi, pour changer les choses, il faut commencer par les enfants. Donc ce type de podcast a énormément de valeur ajoutée à mes yeux, donc je suis ravie d'y participer. Alors comment faire pour répondre aux questions ? Alors ça me semble très vaste comme question. Comment faire quand la question de l'enfant, quand les interrogations des enfants vont à l'encontre de nos croyances ou de notre système de valeurs?
Peut-être pour préciser la question, en fait, dans ce podcast, en effet, on a essayé d'offrir des ressources aux enfants pour les inviter à réfléchir par eux-mêmes. Mais d'avoir en face de soi un enfant qui réfléchit par lui-même, ce n'est pas toujours simple, parce qu'un enfant qui réfléchit par lui-même, il vient un petit peu parfois nous rentrer dedans. Et il vient aussi parfois nous mettre face à nos propres contradictions et aussi parfois à nos systèmes de valeurs. Et en fait, c'est peut-être là-dessus que j'aimerais bien que vous, en tant que spécialiste, vous aidiez les parents à comment faire quand on est gêné par une question, quand on ne sait pas comment répondre, ou bien alors que même on se dit on est un petit peu heurté par la question de son enfant.
Je pense que la première chose à faire, c'est de prêter attention à cette gêne en fait que l'on ressent. Pourquoi est-ce que je suis gênée par cette question? Qu'est-ce qu'elle provoque chez moi? Qu'est-ce qu'elle titille chez moi? Et ensuite, essayer d'analyser pourquoi est-ce que l'enfant a été amené à poser cette question. Et faire preuve, dans mon domaine, je prône l'ouverture d'esprit. Donc faire preuve d'ouverture d'esprit et essayer de, pourquoi pas, de répondre ensemble, de comprendre ensemble. Puisque si l'enfant pose la question, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Parce que on peut être un peu campé sur nos positions, sur nos certitudes, et l'enfant vient réinterroger tout ça. Donc peut-être faire preuve d'honnêteté envers soi-même et de se dire que peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça, et faire preuve d'ouverture d'esprit et explorer la question ensemble.
Et donc, si j'entends bien, vous invitez aussi les parents, peut-être parfois, à même exprimer que ça les met mal à l'aise ou que, en effet, ils sont prêts à y réfléchir avec leurs enfants, mais que de le dire tout simplement, je pense que parfois, c'est peut-être important aussi d'exprimer ça.
C'est ça. Au lieu d'affirmer une croyance et de dire « bon, c'est comme ça et puis c'est tout », vous voyez, au lieu de couper court aux réflexions de l'enfant, plutôt dire « bon, là, je ne sais pas trop, j'avais pas vu ça comme ça, c'est une bonne question, on va explorer ça ensemble. Voilà. » Peut-être pas dire que ça me met totalement mal à l'aise et perdre mes moyens devant mon enfant, mais dire que « tiens, c'est une bonne question, j'avais pas vu ça comme ça. » On va essayer d'y répondre ensemble.
Et peut-être aussi d'aller, comme d'ailleurs Gabi et Chat dans le podcast, de dire à son enfant, bah, ouais, allez, viens, on va essayer de comprendre ensemble, on va essayer d'aller chercher l'info ensemble. Et ça peut être peut-être aussi le point de départ de chouettes discussions.
C'est ça, puisque si vous restez sur votre position, difficile comme ça d'affirmer des choses sans exemple précis, mais si vous restez sur votre position, si vous choisissez de ne pas répondre à la question de l'enfant, la question ne disparaîtra pas pour autant. C'est-à-dire qu'elle restera quelque part dans sa tête en se disant « Oui, mais pourquoi maman m'a dit ça ? Pourquoi papa m'a dit ça ?» Et il va essayer de trouver les réponses ailleurs.
Et voire même peut-être en l'amplifiant s'il voit son parent mal à l'aise.
C'est ça. C'est ça.
Alors, je vais poursuivre avec vous, Julien. Donc, vous êtes journaliste et vous avez été rédacteur en chef de France Info. Vous avez notamment présenté France Info Junior de 2016 à 2017 et Salut l'Info, le podcast d'Astrapi, en 2019-2020, aux côtés d'Estelle Faure, podcast destiné à parler d'actualité aux enfants, comme un vrai journal pour les grands. Vous venez tout juste de monter votre structure indépendante, Billy the Cast, pour explorer le format du podcast pour enfants. Vous réalisez Qui a inventé, le podcast d'Image Doc qui raconte les petites et les grandes histoires des inventions qui ont changé l'humanité. Vous êtes aussi le père de deux enfants. Bonjour Julien, merci
Bonjour.
D'être là.
Merci pour l'invitation.
Alors pourquoi, selon vous, est-ce important de parler d'actualité aux enfants ?
Ça va faire écho un petit peu à ce qu'on disait juste à l'instant, c'est que moi je pars du principe qu'il faut nourrir la curiosité de l'enfant, il ne faut pas en avoir peur, et cette curiosité, ils sont souvent à un âge entre, on va dire, 4-5 ans et 10-12 ans, c'est assez vaste, mais c'est un moment de développement de l'être humain qui est très important, effectivement, et qui peut parfois nous mettre face à nos contradictions. Le réflexe qu'on peut avoir en tant que parent, c'est de dire on va protéger les enfants du monde extérieur, ne pas leur raconter l'actualité, etc. etc. Et nous, on a voulu faire l'inverse au moment de la création de Salut l'Info, parce que raconter l'information dans tout ce qu'elle peut avoir de beau, émouvant, enrichissant, dramatique parfois aussi évidemment, complexe, c'est important aussi pour leur construction. Donc mon positionnement, c'est on peut parler de tout ou presque aux enfants, le tout c'est de savoir choisir les mots, l'angle d'attaque par lequel on va aborder un sujet et ensuite aussi bien sûr de respecter leur développement et donc de respecter leur âge et donc d'évoquer des sujets avec les mots précis et respectueux pour chaque âge. Je m'explique, mais il y a des sujets dans l'actualité qui sont assez dramatiques, qui tournent autour de, je ne sais pas, je vais dire des exemples de l'inceste, le viol, les meurtres. Les enfants captent ce genre de choses, même si on coupe la radio, il y a toujours un moment où dans la cour de récré, où le grand frère, où la télé qui est allumée, on ne fait pas attention, et il y a des questions qui vont surgir autour de ces sujets parfois difficiles et qui nous mettent nous mal à l'aise. Mais dans ces cas-là, il faut prendre le temps d'expliquer, donc c'est ce qu'on a voulu faire. Il faut le faire simplement, il faut le faire avec rigueur, et en respectant, encore une fois, le développement de l'enfant, son âge, et ne jamais ni dramatiser, ni sous-estimer. Voilà, ça, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il faut aussi parfois passer par des codes que les enfants connaissent mieux. L'humour, l'illustration par des exemples qu'ils vivent au quotidien, pour évoquer des sujets qui touchent nos vies d'adultes, et qui peuvent entendre à la radio, leur raconter avec des mots et des situations qui leur parlent à eux.
Et peut-être je vais rebondir avec une question pour vous, Raki, autour, je trouve ça très intéressant, autour de l'âge, c'est-à-dire quels mots employer, quelle manière d'appréhender les choses, à quel âge. Est-ce que ça, vous pouvez nous donner juste quelques petites indications, peut-être, pour aider les parents ?
Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Julien. Il faut respecter leur développement, leur âge de développement, et ne pas aller trop vite. Voyez, par exemple, en ce qui concerne la sexualité, etc. Ça arrive un peu plus tard, bien que l'inceste concerne tout le monde, hein, mais trouver les mots justes sans les heurter, mais en même temps sans trop simplifier, sans embellir la réalité non plus. Vous voyez, essayer de rester juste. Ensuite, concernant les mots, ce qui me vient tout de suite, c'est, je vais prendre un exemple de mon fils. Moi, je travaille sur les discriminations, sur le racisme, sur les stéréotypes, etc. Et on peut penser que ce sont des sujets qui ne les concernent pas et qui concernent que les adultes. Et entre adultes, on va utiliser des termes comme origine ethnique, comme noir, blanc, asiatique, etc. Et les enfants, on va utiliser des termes différents. Mon fils, à l'âge de 3 ans, moi qui pensais que ça commençait plus tard, mais en fait, les recherches montrent le contraire, et mon fils m'a prouvé également le contraire, en me disant, à 3 ans et demi, « Maman, à l'école, des enfants disent qu'ils ne veulent pas jouer avec moi parce que moi, je suis marron et eux sont beiges. » Ils sont beiges et marron, donc ils vont utiliser des couleurs comme ça. Ou l'autre jour, il m'a dit « Ambre, elle est de couleur lait. » Donc, elle a la couleur du lait. Oui, donc ils vont utiliser des mots qui leur parlent, exactement ce que disait Julien tout à l'heure, par rapport à leur univers du moment. Et donc, on va essayer de je vais m'appuyer sur sa connaissance du moment pour lui expliquer d'autres choses. Je vais lui dire que, certes, il est beige et tu es marron, ou elle est couleur lait et tu es couleur caramel, mais ça ne veut pas dire qu'une couleur est plus jolie qu'une autre, ou plus forte qu'une autre. Toutes les couleurs sont jolies. Et puis, il y a d'autres couleurs que beige et marron. Il y en a plein d'autres. Et elles sont toutes autant jolies les unes que les autres. Et ça ne signifie rien de plus que vous avez simplement une couleur différente. Mmh. Oui, donc, je vais m'appuyer sur sa croyance pour lui expliquer les choses.
Mmh. Du coup, se servir de ce qu'eux vous apportent comme élément pour reprendre leurs mots et du coup, s'adapter à cela pour rentrer dans des sujets... je pense avec tout autant de profondeur, même si c'est dit avec des mots simples.
C'est ça. Donc, m'appuyer vraiment sur son système de croyance, sur son vocabulaire, sur ce qu'il comprend, pour aller un peu plus loin.
Pour continuer juste avec vous sur justement ces représentations, parfois, j'imagine que certains parents ont envie de bien faire, de déconstruire, de changer peut-être des croyances.
En réalité, les enfants ne voient pas les couleurs. il suffit d'observer les enfants. Vous avez tous les deux des enfants. Vous avez bien vu que quand vous allez au parc, au centre commercial, il suffit qu'ils se regardent et ça y est, c'est devenu des copains, ils vont jouer ensemble. Donc, ils ne voient pas... Ils ne voient pas vraiment les couleurs. Donc, ça vient de l'environnement, ça vient du verbal, ça vient aussi du non-verbal. Vous voyez, quand vous êtes en train de regarder un film et que vous dites quelque chose envers des populations qui ont un phénotype particulier, l'enfant va vite capter qu'il y a quelque chose par rapport à ces gens-là. Pour déconstruire, il faut donc réinterroger, réexpliquer. Et aussi le familiariser avec les autres couleurs, les autres types de cheveux, etc. Et en ce moment, il y a énormément de littérature jeunesse qui se développe sur ces sujets-là. Donc, acheter des livres avec des personnages différents, des jouets avec des personnages différents. Et petit à petit, ils vont se familiariser avec l'existence de ces autres phénotypes. Et une fois arrivés à l'école ou à la crèche, ça ne leur fera pas si bizarre que ça de voir un copain qui s'appelle Mohamed ou une jeune fille qui s'appelle... X ou Y, qui a des cheveux crépus ou autre.
Oui, pour vraiment changer les représentations qui sont parfois fortement ancrées.
Oui, elles sont ancrées, elles sont... il est très difficile de les combattre, mais on peut les combattre. C'est pareil pour le sexisme. Moi, j'ai fait attention à ne pas... Enfin, j'essaie de faire attention à ne pas transmettre des stéréotypes sexistes envers mes enfants. Donc, j'ai un petit garçon et une petite fille. Et mon fils me dit « Maman, le rose, c'est pour les filles. Et le bleu, c'est pour les garçons. » Je n'ai jamais dit ça. Jamais, jamais. Et il l'a entendu à l'école, certainement. Mais pas de ma part. Donc, il y a des croyances qui sont tirées de d'autres environnements, puisqu'il va fréquenter d'autres cercles. On les garde avec nous jusqu'à 2 ans, voire avant, quand ils vont à la crèche. Mais quand ils fréquentent d'autres cercles sociaux, il y a d'autres croyances qui sont aussi transmises. Et c'est à nous de faire de rectifier un petit peu le tir. Et donc, pour les parents, le conseil que je donnerais, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit et faire attention aux croyances que les enfants absorbent et peut-être reproduisent envers d'autres enfants qui ne leur ressemblent pas.
Et puis, ce qui est difficile, c'est qu'on a il y a le discours et puis les actes.
Complètement.
Alors, moi, je sais pas comment ça se traduit en langage psychologique, psychologue, mais vous pouvez dire, expliquer tout ce que vous voulez à vos enfants. Si vous, dans votre pratique quotidienne, ça va à l'encontre de ce que vous racontez et ça ne marche pas.
Tout à fait. Et donc, je vais continuer avec vous, Julien. Je vous pose la question qui est proche, mais là, donc autour plus des sujets d'actualité. comment aider et accompagner les parents, justement, quand il y a des sujets d'actualité extrêmement brûlants et extrêmement compliqués qui peuvent sidérer les parents. Comment faire, selon vous, pour aider à trouver les bons mots? Parce que parfois, c'est quand même... je pense que les parents sont vraiment sidérés, c'est le cas de le dire. Et du coup, au lieu d'en parler, ils savent pas comment faire, quoi. Est-ce que...
Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, si on prend l'exemple. C'est un peu comme on répondrait à une interrogation autour d'un cas de discrimination raciale à l'école, comme on vient de l'évoquer. Et du coup, dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à en revenir aux faits. Pourquoi quelqu'un a une couleur de peau noire? Parce qu'il y a des petites cellules dans son corps, la mélanine, qui rend une couleur de peau différente. Et puis, c'est l'occasion aussi de... les enfants ont ça de formidable, qui nous interrogent en permanence et qui nous remettent face soit à nos contradictions, soit à la base des sujets, à l'origine des choses, des sujets. Et voilà. Ils se posent des questions que nous ne nous poserons plus parce qu'on s'est construit notre schéma mental. Voilà. Mais du coup, c'est l'occasion de revenir à la base dans ces cas-là. Pour l'actualité, je pense que c'est pareil. À ceci près que parfois, effectivement, je pense à des actualités très fortes, terrorisme, voilà, on a tous été traumatisés d'une manière ou d'une autre et choqués psychologiquement par ce qui s'est produit en France ces dernières années, à des degrés divers. Eh bien, parfois, il faut d'abord peut-être choisir le bon moment, rassurer l'enfant. Parfois, le bon mot, c'est pas deux mots. Il faut aussi accepter ça. Le bon mot, c'est pas deux mots. Et si on n'est pas en mesure de rassurer, d'être bienveillant et de l'accompagner, de lui expliquer, surtout en le rassurant, parce que sur ces actualités-là, c'est pas facile. En tant que parent, hein, j'entends, il faut peut-être prendre le temps de dire comment je vais lui raconter ça. Mais surtout, ne pas éluder. Voilà. Pour moi, c'est se confronter au sujet. Il ne faut pas avoir peur, même si ça nous met mal à l'aise. Même si, on a tous été confrontés, beaucoup de parents ont été confrontés à la situation. Comment j'explique Charlie Hebdo? Comment j'explique le Bataclan? Comment j'explique la Syrie? Il faut expliquer ça aux enfants. C'est l'occasion de leur dire, oui, la Syrie, voilà ce qui se passe, il y a une guerre. Mais pourquoi il y a une guerre? Il y a une guerre parce qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir depuis longtemps, qui opprime son peuple. Ça veut dire quoi, opprimer? Il faut prendre le temps avec les enfants. Il faut aller à la base du sujet, faire un peu comme Chat et Gabi, et arriver à, vous ouvrez le dictionnaire, on va à l'origine du mot. De temps en temps, il faut aussi se mettre, nous, en adultes, un petit peu en danger, et essayer de recomprendre quelque chose de l'actualité, etc. Et c'est parfois déstabilisant, parce que les enfants ont des questions qui sont très pertinentes. Nous, on a appris ça, j'ai découvert ça avec France Info Junior, avec Salut l'Info, mais c'est vrai aussi dans des podcasts pas d'actualité, qui a inventé aujourd'hui. Les enfants ont des questions qui sont très pertinentes et parfois plus pertinentes que celles des adultes, parce qu'ils n'ont pas l'appréhension de poser une mauvaise question, entre guillemets, parce qu'ils ont... ils n'ont pas encore ce schéma et ces codes qu'on s'est construits petit à petit au fil de notre vie. Et du coup, c'est vachement intéressant pour nous, adultes, de revenir à la base des sujets, à la base du monde qui nous entoure, l'explication du monde qui nous entoure. L'actualité en fait partie.
Oui, et ça me paraît extrêmement important et intéressant, mais ce n'est pas facile pour les parents. C'est de se questionner sur l'origine des choses. Et je pense que ça nous amène aussi, du coup, à nous questionner, nous, en tant que parents, sur des questions peut-être qu'on a... qu'on a zappé ou qu'on a mis de côté. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant.
Si je peux juste ajouter un tout petit truc, peut-être aussi il faut savoir par moment faire preuve d'humilité et se dire j'ai besoin d'aide. Et il y a des gens qui font ça très bien. Il y a de la presse jeunesse, il y a des podcasts jeunesse. On peut écouter Ma Langue au Chat, Salut l'Info, ce que vous voulez. Mais il y a des clés, des codes de temps en temps pour aider les parents. Parce que, et c'est aussi pour ça que moi j'adore ça, c'est me dire que peut-être qu'à un moment ça va servir à l'enfant ou à l'adulte, aux deux, je sais pas. Voilà. Mais l'idée c'est de faire ça le plus sérieusement possible, le plus rigoureusement possible et de donner des outils d'explication aux enfants, aux adultes.
Et je vais rebondir aussi sur ce que vous dites pour dire aussi que quand les sujets sont peut-être trop compliqués, trop sensibles, qu'ils viennent peut-être réveiller des angoisses ou un passé compliqué chez le parent, ce n'est pas un aveu de faiblesse de demander de l'aide justement à un professionnel, à un psychologue ou autre. Et ça peut-être, Raki, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots là-dessus.
Oui, vous faites bien de le mentionner, effectivement. même les psychologues, même aux psychologues sont associés des croyances négatives ou des appréhensions. Donc, je ne vais pas aller voir de psychologue parce que je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, tout va bien, je peux supporter, je peux faire. Alors que parfois, on est un peu pris au dépourvu, on est sidéré aussi par l'actualité qui a été très intense ces dernières années. Et on a le droit, oui, de choisir son moment et de dire là, je ne peux pas de l'expliquer parce que c'est trop récent ou on va prendre un temps et je vais t'expliquer, d'accord, et surtout pas éluder, surtout pas passer sous silence. Et parfois on peut être totalement démunis, c'est-à-dire que même avec toutes les ressources, podcast, audio, vidéo, etc., si on n'arrive pas à trouver la réponse et surtout si on n'arrive pas à rassurer son enfant, on peut aller voir un psychologue qui est spécialisé dans le développement de l'enfant pour l'aider justement à digérer ce type d'événement, à le comprendre et à s'en relever. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, bien au contraire. Bien au contraire, puisqu'on ne peut pas tout faire. On est tous ses parents et à un moment donné, on a besoin de l'expertise de quelqu'un d'autre. On a besoin aussi de se détacher, puisque c'est notre enfant, on est beaucoup trop impliqué émotionnellement et on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Et ce n'est absolument pas un aveu de faiblesse. Vous allez lui rendre service en faisant ça.
Oui, je pense que c'est l'aider justement parfois dans son développement d'enfant. Et je rappelle que... Je le dis à tous les parents et je le dis aussi à moi-même que on fait comme on peut et que quand on n'y arrive pas, et ben voilà, c'est bien de demander de l'aide. Voilà, je crois que c'est vraiment extrêmement important de dire ça et ça ne fait pas de nous des mauvais parents. Bien au contraire, je crois.
Absolument pas. Être un parent, c'est aider donc son enfant à grandir, à devenir un individu. J'allais dire un individu suffisamment distinct et autonome, construit, sain d'esprit, etc. Donc, si on n'y arrive pas, on demande l'aide d'un professionnel. Dans ce but-là, c'est toujours pour servir le but de l'enfant. Donc, c'est pour le bien-être de l'enfant que vous le faites.
Alors, j'ai une petite dernière question à tous les deux. Quand vous êtes démunis face aux questions de vos enfants, parce que ça doit vous arriver à vous aussi.
Oh, à peine.
En fait, quelles sont vos ressources? Est-ce que vous utilisez un livre? Enfin, il y a plein de supports qui permettent de faire passer des messages et qui permettent aussi de lancer la discussion. En plus, ça peut être des moments de complicité vraiment chouettes avec son enfant. Est-ce que vous avez votre petit truc et astuce à partager avec les parents auditeurs? Peut-être Raki, si vous avez une idée.
Enfin, moi, j'ai un petit garçon qui est très curieux et l'autre jour, il m'a demandé « Maman, ça marche comment la radio ?» J'en sais rien du tout. Je vais chercher un livre.
Envoyez-le nous.
Je vais chercher un livre, un documentaire. Enfin, voilà, je me suis dit, je suis en train de chercher un livre adapté, avec un langage adapté aux enfants, pour expliquer le fonctionnement vraiment technique de la radio.
Aïe, aïe, aïe.
Qu'ils puissent comprendre. Voilà, donc je suis aussi hein, parfois démunie. Hein.
Et vous, Julien, alors comment faites-vous?
Je fais un peu comme tous les parents. Hein. Je me débrouille, des fois je sèche, je donne ma langue au chat. Et ça, c'est, non, mais c'est vrai, j'en rigole là, mais c'est important aussi parfois qu'un enfant entende... Moi, j'ai un fils qui est très, 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 très curieux et qui a eu une phase du pourquoi qui a duré particulièrement longtemps et insatiable, en fait. Il y avait une réponse, on a amené une autre question, puis une autre question, puis une autre question. Donc, c'est intéressant, c'est nourrissant. C'est un peu fatigant aussi, parfois. Mais et puis, au bout d'un moment, on sèche. Donc, il faut lui dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, attends, bouge pas, on va chercher ensemble. Et donc, comme vous disiez, c'est l'occasion d'avoir un petit moment en famille. Parfois, sur certaines questions, je prends le temps, moi, de faire ma petite recherche. Alors, souvent, c'est une petite recherche. C'est vrai que j'ai tendance à être pas mal connecté. Je regarde sur mon smartphone. Je sélectionne le contenu. Et puis après, on en parle. Et parfois, ça peut être... oui, il y a eu des phases. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Il y a eu des phases où on a fait appel à des bouquins, soit auteur jeunesse, soit psychologue, des bouquins, des adaptations de Dolto ou autres. Hein. Voilà, après, chaque parent fait un peu comme il sent et en fonction de ses valeurs. Mais oui, on cherche des ressources.
Voilà, et je crois aussi que c'est bien parfois de dire, qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout. Et ce que je dis souvent à mes enfants, mais aussi aux enfants que je rencontre, je leur dis on apprend tout au long de sa vie. Et voilà. Alors, il ne faut pas le dire trop souvent parce que ça peut avoir, je pense, un caractère anxiogène pour les enfants. Mais sur des questions extrêmement précises, extrêmement techniques, moi, je trouve ça bien de leur dire bah, « je ne sais pas ».
Mais du coup, ils apprennent deux choses. Ils apprennent la réponse à la question qu'on cherche et ils apprennent qu'on peut apprendre, en fait, qu'on peut chercher et qu'on peut trouver des solutions. Parce qu'ils voient leurs parents faire la démarche. C'est un double apprentissage pour eux.
Nous arrivons maintenant au terme de cet échange. Merci mille fois à tous les deux. C'était vraiment passionnant, à la fois complémentaire et éclairant.
Un plaisir.
Un plaisir.
À bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt. Rachel. Merci.
J'espère que cet entretien vous a plu et surtout qu'il vous aidera à accompagner vos enfants et à décrypter, détricoter, déconstruire et à ne pas s'enfermer dans des idées toutes faites. Langue au chat, un podcast Nouvelles Écoutes, enregistré en cochon pendu au studio L'Arrière Boutique. Écrit entre deux châteaux de sable par Clémentine Dupont-Avis, réalisé en mangeant du chocolat par Aurore Meyer-Mailleux, monté par Marine Rowe après sa sieste, produit en faisant la roue par Gaïa Marty, et c'est Marion Emery qui mixe en faisant des galipettes.